Le club de la presse numérique, nous parlons ce soir de Black Friday qui aura lieu ce vendredi et qui marque une nouvelle date clé dans le shopping largement popularisé en France par Amazon. Nous allons décrypter ce modèle ambigu avec vous, Elisa Brown de Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Gloz, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on parle souvent dans cette émission de l'influence de la culture américaine et ce soir on en a un exemple, on s'intéresse à un phénomène qui nous vient d'outre-Atlantique, le Black Friday qui aura lieu donc ce vendredi 23 novembre. Au départ, Black Friday, ça désignait le vendredi qui suit, tout simplement, Thanksgiving, qui a lieu le jeudi. Aux États-Unis, cette journée s'est imposée comme un événement où les commerces font des promotions pour attirer les clients. Elisa Brown, un retour peut-être sur la genèse de ce Black Friday et de tous ces éléments composants, y compris dans les magasins physiques.
Donc la légende veut que le Black Friday soit né dans les années 60 du côté de Philadelphie, parce que justement, l'occasion de Thanksgiving est un grand moment, un moment pratique aussi pour proposer des soldes. C'est un jour férié
aux États-Unis,
Qui suit Thanksgiving, et c'est aussi juste avant en fait le lancement de la période des fêtes. Et en fait, cette période de soldes s'est étendue depuis une décennie environ, également au domaine de l'e-commerce. Et ça, c'est un moment aussi où les entreprises réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires. À titre d'exemple, Amazon, sur le dernier trimestre entre Black Friday et les fêtes de Noël, a réalisé l'an dernier 65 milliards de chiffre d'affaires. C'est 40% de plus qu'au trimestre précédent. C'est vraiment une étape en fait charnière, Black Friday, dans l'e-commerce.
Comment ça arrive, Black Friday, Elisa, en France ?
Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, comme vous le disiez, l'événement Black Friday a été importé notamment par Amazon en fait. Maintenant, il faut savoir que même si les Français connaissent de plus en plus cet événement, le pic de consommation survient vraiment avant la période des fêtes, une semaine en fait avant Noël. Et du coup, je dirais que même s'il y a une connaissance de cet événement, c'est pas non plus le moment où les Français dépensent le plus.
Nicolas Prinsen, on a à travers ce Black Friday, au fond, ça témoigne du poids, on pourrait presque dire de la puissance qui n'a pas de limite d'Amazon.
Oui, c'est-à-dire qu'avec Amazon, on assiste à l'internationalisation de deux choses. C'est le rythme du commerce américain, d'une part.
C'est un petit peu
au commerce ce que Halloween est à la culture, c'est-à-dire une importation américaine qui a vocation à faire consommer dans un calendrier américain. Deuxièmement, en effet, l'internationalisation du e-commerce avec un acteur comme Amazon qui imprime partout une patte extrêmement agressive et dynamique, qui plaît énormément, notamment aux États-Unis, mais maintenant en Europe de l'Ouest, face aussi de l'autre côté du monde, on en a d'autres dont on parlera sans doute, qui font la même chose en Chine avec leur propre calendrier, et en Europe on est un petit peu au milieu de ces deux phénomènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque année, et cette année ne dérogera pas à la règle, on entend parler des records incroyables de ventes la journée du Black Friday, qui est un petit peu le summum, le point calendaire de référence du e-commerce occidental en tout cas, et en effet on peut s'attendre à un chiffre supérieur à 6 ou 7 milliards de dollars en une journée pour un acteur du numérique. C'est en soi énorme pour un acteur du numérique, mais pour n'importe quel acteur du commerce. Et je suis notamment attentif au fait que on voit que dans leur stratégie, toutes les autres enseignes, qu'elles soient numériques ou physiques, sont en quelque sorte obligées de s'aligner. Je ne sais pas si vous êtes allé faire du shopping récemment, mais moi, plusieurs fois, on m'a parlé du Black Friday qui allait arriver dans des enseignes qui n'ont aucune empreinte numérique, mais qui sont totalement alignés sur le calendrier d'Amazon.
Ça, la question qui se pose aussi, c'est donc jusqu'où la puissance d'Amazon et qu'est-ce qui peut la freiner, notamment aux États-Unis en termes de régulation.
Amazon est aujourd'hui un acteur, sans doute l'acteur le plus puissant de l'univers des technologies, je pense plus que Facebook, plus que Google, ça peut s'argumenter. D'une part parce que les revenus sont extraordinaires, mais d'autre part parce que ça va au-delà du numérique. D'une part, il y a une puissance numérique extrêmement forte, notamment dans le cloud, dont on pourra parler, mais il y a aussi toute une puissance logistique qui est derrière. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est pas juste un site internet, il faut imaginer derrière du transport, du stockage, et à tous les niveaux, le top de la performance mondiale. C'est-à-dire que les centres de stockage d'Amazon sont les plus sophistiqués, ils sont notamment dominés par la robotique, où Amazon innove plus que n'importe qui au monde, sauf sans doute quelques concurrents chinois. Et puis c'est aussi une force technologique majeure. Je pense que le poids notamment d'Amazon dans le cloud le met non seulement avec Amazon Web Services, qui est le service de cloud, d'hébergement dans le cloud d'Amazon.
Le plus puissant jusqu'à Netflix ou même la NSA, qui sont obligés d'utiliser ce...
Absolument. Ce qui les met, si vous voulez, au cœur non seulement de la vie des citoyens, des consommateurs que nous sommes, mais de la vie des gouvernements et des entreprises.
Pour en venir au Black Friday, notamment dans ses aspects un peu français, Elisa Brown, Black Friday vient se nicher, si on peut dire, à travers tout un tas d'autres offres, des soldes en France qui sont déjà nombreuses, les ventes privées, etc. Avec d'ailleurs une sorte, s'inscrit dans un cadre d'opération commerciale de déstockage qui est très réglementé par ailleurs en France. Comment vous voyez les différents exemples, en l'occurrence du Black Friday, à travers par rapport aux soldes, par rapport aux ventes privées?
C'est vrai que les Français ne manquent pas d'occasions en fait pour dépenser. Les temps français en termes de consommation sont plutôt marqués par les soldes d'été, les soldes d'hiver. Et puis on a vu aussi se développer ces dernières années le phénomène des ventes privées. Et puis chaque site organise aussi ses propres journées exceptionnelles. Et dès lors, le Black Friday peine un peu à s'imposer dans ce paysage.
Quand on regarde les recherches Google, par exemple en France, sur le Black Friday, on constate, alors c'est un des rares chiffres qu'on a, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe de manière très sourcée, elle ne cesse de doubler d'une année sur l'autre dans l'Hexagone. Ça montre l'intérêt, en tout cas, au moins à travers la recherche du mot Black Friday en France. Parlons de la Chine, qui a son Black Friday à sa façon. Nicolas Prinsen, et je pense notamment à ce qu'on appelle le 11-11, hein, la fête des célibataires en Chine, qui a été créée par le fondateur d'Alibaba, le site chinois de e-commerce. Et là, on voit d'une part ce consommateur chinois, presque, je reprendrai le titre célèbre d'un livre, qui s'éveille.
Absolument. Pour vous donner une idée de la comparaison entre Amazon et Alibaba, la journée de plus forte vente de l'histoire d'Amazon, c'était le Cyber Monday de 2017, qui est une autre date, et ça a dépassé les 6 milliards de dollars de revenus. La plus grande date pour Alibaba, quasi exclusivement sur le continent chinois, c'est cette année près de 30 milliards de dollars. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais
avec,
c'est quand même
dans les 85 premières secondes, on a dépassé le milliard de chiffre d'affaires.
Absolument.
En une heure, on a dépassé 10 milliards. Donc
c'est
un phénomène
exclusivement en Chine. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette donnée, c'est que si vous ramenez ça au nombre de Chinois qu'il y a en Chine, on parle d'à peu près 22 dollars par Chinois. C'est comme si chaque personne en Chine, vous savez, il y en a 1,5 milliard, avait acheté un bien à 20 euros, en gros. Comparer ça à Amazon, la plus grande performance qu'ils aient eue, au prorata de ce que je viens de dire, c'est 12 dollars par Américain le jour de la plus forte vente. Et je crois que c'est un phénomène extrêmement intéressant à observer parce que on assiste à la naissance vraiment du consommateur chinois qui dépasse le consommateur américain. Et ça, je crois que c'est absolument nouveau et totalement révolutionnaire.
Elisa.
D'ailleurs, si je peux compléter, du coup, c'est vrai que depuis 2014, on observe que les ventes lors du Single Day sont supérieures aux ventes qu'on peut observer côté États-Unis avec le Black Friday et aussi le Cyber Monday que tu mentionnais, qui est donc le lundi 26 novembre, juste après ce gros week-end de ventes du Black Friday.
Quelle est la recette, Elisa, du succès au fond d'Alibaba ?
Alors Alibaba, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène logistique à observer hein, dans le succès de ce Single Day, c'est que Alibaba communique beaucoup en amont de l'événement sur les produits qui vont être soldés. Ce qui fait qu'on a déjà des pré-réservations énormes, ce qui explique en partie que dès les premières secondes, on ait 1 milliard de dépenses enregistrées. Et au-delà de ça, la recette du succès d'Alibaba, et d'ailleurs c'est aussi l'un des objets du Single Day, c'est de faire la démonstration de sa puissance technologique. Parce que au pic de consommation de ce Single Day, on enregistre parfois jusqu'à 320 000 demandes par seconde. Et ça montre bien en fait la robustesse des serveurs d'Alibaba, qui est un acteur du cloud également.
Là, on a aussi comparaison possible avec Amazon et Colapresen.
Oui, moi je trouve que les deux ont exactement le même profil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont développées à un tel niveau de sophistication et de puissance technologique et commerciale qu'ils deviennent des acteurs incontournables du secteur technologique parce qu'ils ont poussé plus loin que quiconque la performance de leur outil, notamment dans le stockage. Mais je trouve intéressant de rappeler que l'historique des deux est radicalement différent. On a affaire à deux entreprises qui ont adopté des modèles totalement opposés. En vérité, Amazon, à la base, c'est une société qui fait du e-commerce de manière classique.
Qui vend même des livres au début.
Absolument. Ouais. C'était, on stocke des livres quelque part, on envoie les livres par la poste au client final. Alibaba n'a pas de stockage. Alibaba n'a
c'est
pas de bien.
C'est
un intermédiaire. Ouais. C'est ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire quelqu'un qui va
une
simplement...
Une marque blanche, presque, bien que pas blanche, en l'occurrence.
Tout à fait. Mais quand vous allez sur le site, d'ailleurs, parfois, c'est un petit peu ambigu, mais Alibaba va plutôt fournir la possibilité à n'importe quel PME en l'occurrence en Chine, d'avoir un store, un magasin en ligne et de le publier sur Alibaba. Ce qui veut dire que les deux modèles ont évolué, c'est-à-dire que Amazon est devenu une marketplace, des acteurs tiers des PME peuvent distribuer sur Amazon et Alibaba a ouvert aussi des magasins de marque pour offrir une expérience un petit peu plus premium. Mais à l'origine, culturellement, ce sont deux entreprises très différentes. C'est pour ça qu'Amazon a toujours le réflexe avec Jeff Bezos de vouloir intégrer la chaîne de la valeur, c'est-à-dire d'avoir toutes les briques, y compris la brique logistique, qui est le prochain lieu de conquête d'Amazon, puisqu'ils veulent s'affranchir des tarifs, notamment.
Oui.
Voilà, absolument.
De la Poste en France, mais aussi de FedEx ou de UPS, etc.
Alors que l'extraordinaire Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, ne cesse d'expliquer qu'il ne veut pas rentrer dans tout ça, qu'il mise sur une logique d'écosystème et que son principal focus, c'est d'éveiller la puissance de la PME chinoise pour qu'elle puisse distribuer dans le monde entier.
Elisa.
Après, c'est vrai que cette ambition, elle se retrouve quelque peu heurtée par différentes tensions au niveau géopolitique. Hein. La politique de Donald Trump, notamment à l'égard de la Chine, est un véritable frein pour l'expansion internationale d'Alibaba. D'ailleurs, l'entreprise a perdu 30% de sa valorisation boursière depuis juin dernier parce que, justement, les tarifs imposés par Donald Trump aux frontières nuisent à son modèle.
Nicolas, sur ça.
Je pense aussi qu'en vérité, une partie du futur proche du e-commerce va être dictée par un homme, qui est le président des États-Unis, Donald Trump, puisqu'il est vraiment à la pointe, disons, de la lutte contre la globalisation du e-commerce.
Oui.
Absolument, et donc il veut ériger des barrières douanières avec la Chine, parce que je pense qu'il a compris, et il suffit d'aller sur
Alibaba
pour voir.
C'est les deux grands acteurs, finalement.
Ouais, et puis qu'Alibaba peut distribuer aux États-Unis des produits vraiment moins chers, et pas seulement des produits B2C de consommateurs, mais des produits de construction, si vous allez sur Alibaba, vous avez des machines-outils, vous avez des trucs pour les PME, d'une part. Et d'autre part, aux États-Unis, on voit qu'il y a un gros point de tension entre Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Donald Trump, qui ne cesse de s'envoyer des pics sur Twitter. Récemment, il y a une caricature de Jeff Bezos qui se moquait ouvertement de Donald Trump.
Lequel lui répond dans son journal, le Washington Post, comme ça, tout est bien.
Tout est intégré.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est au plein milieu de cette dynamique. Et je sais que Jeff Bezos, d'après ce que je lis, craint beaucoup ce qui peut arriver, puisque la seule limite d'Amazon, c'est le gouvernement américain, finalement, qui pourrait vouloir limiter ou séparer ou diviser cette entreprise vraiment gigantesque.
Elisa Brown.
C'est vrai qu'il y a des tensions qui se ressentent, mais en même temps, Jeff Bezos n'est pas sans armes de contre-pouvoir. On le voit notamment autour de tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de l'attribution des deux sièges sociaux d'Amazon récemment. Amazon a, entre guillemets, profité de la compétition entre les villes, en fait, pour accueillir donc ce siège social avec ses centaines de milliers d'employés. A donc profité de cela pour faire l'étalage, en fait, de sa puissance.
Absolument. Je pense qu'on a assisté ces 14 derniers mois avec cette histoire sur laquelle je pense que c'est bien de dire un mot, à un feuilleton comme il y en aura de plus en plus dans nos économies. Il y a 14 mois, Jeff Bezos annonce on va ouvrir un deuxième HQ, c'est-à-dire un second siège social,
candidaté,
quelque part aux États-Unis.
Il dit aux maires candidaté.
Pendant 14 mois, il y a eu des investissements massifs de la part de la plupart des villes pour essayer de se faire une réputation, des campagnes de presse incroyables.
Des propositions de réduction fiscale incroyables aussi.
Absolument. Et finalement, est sorti du chapeau donc
New
deux
York.
Villes, c'est divisé en deux. New York avec Long Island City et puis Arlington en Virginie, c'est-à-dire pas très loin du Pentagone, en gros,
et de Donald Trump.
Et mais je pense que Donald
sur
Trump, je vais vous dire, je pense que Donald Trump a été furieux, tout simplement parce que je pense que le peuple américain, pour une partie, en tout cas le peuple rouge américain,
s'attendait à ce que ce soit une petite ville de l'Oklahoma,
du Midwest. Et là, on opte pour les côtes, encore une fois, qui en termes d'emploi n'ont pas forcément besoin.
Ouais.
Donc je pense que Donald Trump n'est pas ravi de cette décision qu'a prise.
Un dernier mot sur le Black Friday pour conclure cette séquence, le club de la presse numérique. Avec vous, Elisa Brown du Figaro et Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Gloz. C'est une forme d'américanisation quand même, Black Friday qui arrive comme ça. Ça montre le pouvoir. Vous citiez Halloween, très bon exemple. C'est un peu pareil, même si c'est des secteurs différents. Les États-Unis qui marquent, qui montrent la voie, et sans doute la France suit à son corps défendant.
Je pense que le numérique, bien souvent, peut-être trop souvent, est un soft power des États-Unis. Donc, en l'occurrence, le Cyber Monday, le Black Friday y participent. Mais la question se pose de manière nouvelle de cette dernière décennie. Est-ce qu'il y aura un soft power chinois qui déterminera le futur du e-commerce, notamment en France? Ou est-ce qu'il y aura un acteur français et européen qui s'imposera face à ces géants?
Sur cette note, on termine cette chronique. Merci infiniment à tous les deux. On en reste là pour ce soir. Elisa Brown du Figaro, Nicolas Prinsen de Gloz.